Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mardi 25 mars 2025, il est 6h avant minuit, toujours en direct du salon de la directrice de Syllab. Yeah, blocage oblige. Je voulais commencer par un petit avertissement. Faites attention, une arnaque sur les réseaux de bus de l'agglomération de Fougères circule en ligne. Les autorités ont mis en garde contre un message frauduleux publié sur les réseaux sociaux. Le compte appelé Transport en commun à Fougères promet un abonnement au réseau de transport en commun de la ville, le Surf. En échange de vos coordonnées bancaires, 500 cartes Corrigo en édition limitée permettant des voyages illimités contre une inscription et le règlement de 2,35€ sont censées être offertes aux internautes. Bien sûr, c'est totalement faux. Les services de Fougères Agglomération mettent en garde. Soyez vigilants et ne partagez pas vos informations personnelles. On ne le dira jamais assez. En cas de doute, vous pouvez contacter la Maison des Mobilités au 02 99 99 08 77. Tout de suite, le flash d'Eva.
Fin des hostilités en mer Noire. L'annonce a été faite par Washington. L'Ukraine et la Russie acceptent de cesser les attaques dans cette région. Chacun des deux pays a accepté de, je cite, « assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire ». Kiev et Moscou se sont mis d'accord pour impliquer des pays tiers dans la supervision d'une trêve. Si Washington a réussi à gérer d'une main de maître les négociations russo-ukrainiennes, elle n'a pas su faire de même pour ses informations les plus sensibles. Recevoir des informations stratégiques top secrètes de la part de très hauts responsables américains, comme le patron de la CIA par exemple. Impossible, vous dites-vous certainement. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au journaliste et rédacteur en chef américain du magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Hagley nous en dit plus.
Le gouvernement Trump m'a envoyé par ailleurs ses plans de guerre. Tel est le titre de l'article de Jeffrey Goldberg, publié hier dans The Atlantic. Le journaliste explique avoir été malencontreusement ajouté dans un groupe de discussion ultra confidentiel, regroupant 18 hauts responsables. Parmi eux, John Ratcliffe, le patron de la CIA, comme tu l'as dit, Eva, mais aussi le chef de la diplomatie Marco Rubio ou encore le vice-président James David Vance. Entre autres. Le journaliste affirme que, dans cette conversation, il était question du plan d'attaque détaillé des raids menés le 15 mars par les Américains contre les rebelles houthis du Yémen. Attaques qui ont fait 53 morts, dont 5 enfants et près de 100 blessés, selon le ministère de la Santé des rebelles. Washington, de son côté, a annoncé avoir tué plusieurs chefs des houthis qui multipliaient les attaques contre Israël et contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden en soutien au Hamas. Le journaliste a déclaré, je cite, « 2 heures avant l'explosion des premières bombes, je savais que l'attaque était imminente. Je le savais parce que Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, m'avait envoyé le plan de guerre par SMS à 11h44. » Dans son article, il ne révèle pas les détails confidentiels, disant simplement qu'il y avait des informations précises sur les armements, les cibles et le calendrier de l'attaque. En revanche, il indique que les membres du groupe se sont félicités de leur raid, multipliant les emojis. Il affirme avoir quitté la conversation après les frappes aériennes.
Mais Hagley, est-ce qu'une institution a confirmé cette erreur de messagerie ?
Effectivement, Eva, peu après les révélations de Jeffrey Goldberg, la Maison-Blanche a confirmé que ce dernier avait bien reçu tous ces messages. Brian Hughes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a expliqué. Il semble pour l'instant que la chaîne de messages dont fait état l'article soit authentique et nous cherchons à savoir comment un numéro a été ajouté par erreur.
Mais comment se fait-il que ce soit arrivé ?
Bonne question. Pour le moment, on ne sait pas. Le journaliste lui-même semble estomaqué et a déclaré n'avoir jamais vu une faille de sécurité comme celle-ci. Il a expliqué avoir d'abord reçu puis accepté une demande de connexion d'un certain Michael Waltz le 11 mars sur la messagerie Signal, sans se douter qu'il s'agissait du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Il a ensuite été ajouté dans le groupe de conversation. En fait, ce qui est surprenant, c'est surtout le fait que de hauts responsables aient utilisé Signal pour parler d'un sujet confidentiel. Car même si c'est une plateforme largement utilisée par les journalistes et les politiques, pour la confidentialité qu'elle promet, son utilisation par des officiels américains est contraire à la loi. Ils et elles sont tenus d'utiliser des terminaux sécurisés pour parler de sujets confidentiels, puis de les adresser aux archives, ce qui n'a pas été fait ici, selon le journaliste.
Donald Trump, lui, a affirmé dans une conférence de presse n'avoir pas été informé. Mais comme l'a indiqué Caroline Leavitt dans un communiqué, il continue d'avoir la plus grande confiance dans son équipe de sécurité nationale, y compris son conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz. Hillary Clinton a, elle, commenté l'affaire sur X, je cite « Dites-moi que c'est une blague ». Le président l'avait attaquée en 2016 lorsqu'elle avait envoyé des courriers électroniques officiels via une messagerie privée alors qu'elle était secrétaire d'État. Nous sommes revenus des Oscars et depuis nous sommes attaqués tous les jours. C'est peut-être leur vengeance contre nous pour avoir fait ce film, décrit Basil Hadra, co-réalisateur du film oscarisé No Other Land. Ces déclarations font suite à l'attaque et l'arrestation ce matin de son co-réalisateur palestinien Hamdan Balal par les autorités palestiniennes. Près de Sousia, dans le sud de la Cisjordanie, un groupe de colons a attaqué la maison de Hamdan Balal et l'ont arrêté alors qu'il était blessé et ensanglanté, rapporte Basil Hadra et un autre de ses co-réalisateurs, Yuval Abraham, sur X après avoir assisté à cette scène. Le Center for Jewish Nonviolence, une ONG opposée à l'occupation israélienne de la Cisjordanie, affirme que des membres de l'organisation ont réussi à filmer les événements. Quelques heures après l'incident, cet après-midi, Hamdan Balal a été libéré par les autorités et était sur le point de rentrer chez lui auprès de sa famille, selon le dernier tweet message de Yuval Abraham sur X. Dans le cadre du Festival du cinéma palestinien à Rennes, cette semaine, vous pouvez retrouver une projection du film No Other Land dimanche prochain. Pour garantir l'intégrité du sport féminin, selon les mots de Sébastien Coe, président de World Athletics, un nouveau test a été approuvé aujourd'hui. Quel test, me demandez-vous ?
Quel test, Eva ?
Dis-nous tout, Jamie.
Un test de prélèvement buccal pour les athlètes féminines, afin de savoir si elles sont biologiquement des femmes. Après une large consultation du Conseil, selon l'AFP, la Fédération internationale d'athlétisme considère que cette mesure est incontestablement la voie à suivre, relevant que ce test buccal n'est pas considéré trop intrusif. Homicide involontaire et recel de cadavres. Un an et demi après la mort du petit garçon Émile Soleil, ses grands-parents Philippe et Anne Vedovini, ainsi que son oncle et sa tante, ont été mis en garde à vue pour les motifs cités précédemment. Après la découverte de ses ossements il y a un an, à 1,7 km du hameau du Haut-Vernay, où résident les grands-parents, les investigations des enquêteurs de la gendarmerie de Marseille les ont redirigés vers le cercle familial. Selon le communiqué du procureur de la République d'Aix-en-Provence, ces gardes à vue s'inscrivent dans une phase de vérification des éléments et informations recueillis lors de ces investigations. Une perquisition au domicile des Vedovini a aussi eu lieu aujourd'hui. Un acteur français s'est aussi fait appeler par la justice aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste sur le tournage des Volets Verts a lieu au tribunal correctionnel de Paris. Accusé d'avoir attouché à la poitrine et sur les fesses la décoratrice ainsi que l'assistante réalisatrice du film, l'avocat de l'acteur a décrit hier un complot des plaignantes avec des journalistes et la police pour faire, selon lui, tomber un monstre sacré. Initialement prévu fin octobre, l'accusé avait été jugé inapte à comparaître pour raisons médicales. Mais aujourd'hui, c'est Gérard Depardieu qui a pris la parole dans le prétoire et a choisi de rappeler à l'audience son parcours professionnel. Quant aux accusations, il répond « Je ne vois pas pourquoi j'irais m'amuser à peloter une femme. Je ne suis pas un frotteur dans le métro. » Il reconnaît tout de même avoir pris la hanche de la décoratrice pour ne pas glisser, mais nie toute agression sexuelle. Bonne nouvelle pour les exploitations agricoles d'Ille-et-Vilaine ayant été endommagées par les inondations début 2025. La préfecture de Bretagne a annoncé aujourd'hui débloquer un fonds d'urgence de 300 000 euros pour les agriculteurs du département, avec un montant forfaitaire de 6 000 euros par exploitation. Dans le communiqué relayé par le Télégramme, la préfecture explique venir en aide aux demandeurs selon certains critères. Les voici qui suivent. Être chef d'exploitation à titre principal. Avoir subi des dégâts liés aux inondations avec justificatif par photo de dégâts ou de facture de dépenses suite aux intempéries. Avoir une trésorerie dégradée suite à ça et que l'exploitation agricole en question se trouve dans une des communes d'Ille-et-Vilaine reconnue comme un état de catastrophe naturelle en 2025. Petite pause avec les pécroutes. Et oui, les pécroutes sont de retour. Cette année,
ils sont où cette fois ?
Eh ben, je vais te le dire, ouais, bien sûr, of course. Cette année, nous suivons cette famille partie de la Bouxière, direction le monde. Cette fois, ils sont au Mexique. Mmh. Et Emmanuel le père et Marceau le fils nous donnent quelques nouvelles.
Et nos premiers pas en Amérique latine se font au Mexique. C'était pas prévu dans l'itinéraire initial, mais il nous manque une petite destination entre plage et culture. Alors le Mexique, ça a coché toutes les cases. Cette fois-ci, on a loué une voiture, on a découvert la région qui s'appelle Yucatan, à travers les villes de Valladolid, Mérida, Campeche, Bacalar, et on a visité deux sites mayas, le Chichen Itza, mondialement connu, et Calakmul, nettement moins. On a découvert une région très colorée, avec des façades de maisons qui étaient quand même de différentes couleurs, et il y avait beaucoup de musique dans la rue, c'était vraiment très très joyeux. Ce qu'on a préféré, c'est quand même Calakmul. On l'a conduit dans 60 km de jungle, on a recherché des jaguars ou des crocodiles, qu'on n'aura pas vus, malheureusement. Bon. On aura quand même eu la chance de monter sur les pyramides. Elles font au maximum 50 mètres de haut, et qu'est-ce qu'on voit depuis là-haut ? Uniquement de la jungle, visible sur 360 degrés. En face et à côté, c'est le Belize et le Guatemala. C'était magnifique. Et dans tout ça, quand même, même si on n'a pas croisé le jaguar et les crocodiles, on a croisé de nombreux animaux qui sont promenés soit sur la route, soit dans les arbres, entre les chimpanzés, ou des dindons, ou d'autres animaux qu'on connaît un peu moins. Côté gastro, on n'a pas trop accroché les tacos, plutôt le guacamole, et entre nous, bah, les tortillas ou le chili con carne, ça n'existe pas dans le pays. On a été bien déçus, parce que c'est des inventions des Américains.
Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
Ce que j'ai aimé au Mexique, c'est les temples mayas, les maisons colorées et la musique
parfaite.
Et la prochaine étape pour les pécroutes, un petit... Vous voulez deviner ?
Moi, je le sais déjà, donc je vais pas le dire.
Moi, j'ai l'ordi à côté, mais... Attends, je peux genre, j'ai deviné.
Ouais, vas-y, Colombie. Aglaé. Et oui, c'est la Colombie, wow. Aglaé, tu as gagné.
Trop fort.
Mon respect. Hasta luego. Est-ce que vous voulez travailler tout en faisant du vélo, l'équipe ?
Non. Ah ! Vraiment pas.
Bon, bah, dommage. Mais en tout cas, c'est ce qu'a fait le lycée Anita Conti à Bru, qui lui a dit oui. Pour les 900 élèves du lycée, mais aussi pour le personnel de l'établissement, tout le monde peut faire du vélo maintenant. Enfin, pas vraiment, car c'est une vingtaine de vélos bureaux, entre guillemets, vélos bureaux, qui sont mis à leur disposition, selon l'article dans le Télégramme. Dans les classes, dans les CDI ou dans les bureaux, le proviseur Christophe Briand souhaitait un aménagement des espaces pour que les élèves soient un peu plus mobiles dans l'établissement. Grâce au financement de la Fédération de parents d'élèves et une aide de l'Agence régionale de santé, Julien et Zoé, deux élèves du lycée, se disent plus concentrés. Car il peut être lassant d'être 8 heures sur une chaise. Vous trouvez pas ?
Relatable.
Relatable.
Merci Eva pour ce flash et ces accents états-uniens toujours grandement qualitatifs.
Of course.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe. Il est midi. La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pas d'interview ce soir, malheureusement. Nous devions parler de la semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité. On ne sait pas encore si elle pourra se tenir la semaine prochaine. On croise les doigts. Mais bien sûr, nous vous tiendrons au courant.
6h
avant minuit.
6h avant minuit.
Dans la nuit,
Du 8 au 9 mars dernier avait lieu dans les anciens cinémas du Colombier la fameuse Free Party réprimandée par la police et les équipes de l'influenceur d'extrême droite et videur de la boîte 1988, Jovan de Lourme, dit le Jarl. Une fête gratuite, revendiquée antifasciste et dont le lieu, la dalle du Colombier, avait été choisi pour une raison bien précise. Tout de suite, Syria nous explique tout ça dans sa chronique « Laisse béton ».
Commençons par le commencement, c'est-à-dire par un peu d'histoire de cette vaste étendue de béton. Dans un contexte de boom démographique et de refonte du paysage urbain rennais, à la suite des destructions causées par la Seconde Guerre mondiale, le projet de dalle du Colombier voit alors le jour dans les années 60 sous l'impulsion d'Henri Fréville, ancien maire de la ville. Le résistant souhaitant libérer Rennes de nombreux logements insalubres du quartier Colombier pour en créer de nouveaux. De quoi doter la cité rennaise d'un nouveau centre-ville moderne étendu vers son sud. À l'origine, l'opération prévoit la reconstruction sur les terrains désormais libérés de 2500 logements ainsi que l'aménagement de 36 000 m² de bureaux et 30 000 m² de commerce, des équipements scolaires et 5 000 places de parking. Le projet accueillant aussi 3 tours d'une trentaine de niveaux. Au final, tout ça, ça sera un peu revu à la baisse, en témoigne la construction d'une seule des 3 grandes tours, façonnant aujourd'hui encore l'identité du quartier, le grand immeuble blanc au trait géométrique, l'Éperon. Et fun fact, c'est quelques années après sa livraison que verront le jour les cinémas Ariel en 1974, le futur et aujourd'hui ancien Cinéville. En 1983, Edmond Hervé, maire socialiste, décide l'implantation de 30% de logements sociaux au Colombier. On décompte à ce jour 6000 habitants et habitantes dans tout le quartier. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous demander où est le rapport entre notre fête antifasciste délogée par un ancien candidat zémouriste et sa bande et ce que je suis en train de vous raconter.
Où est le rapport alors ?
Eh bien, si j'ai choisi de vous parler de ce quartier, c'est parce que dans les revendications du collectif Écran Total, organisant la soirée, il y avait notamment l'opposition au projet Euro-Rennes, un projet menaçant de gentrification le quartier d'après LE. Pour rappel, la gentrification, c'est ce phénomène qui consiste à globalement dégager les pauvres de leur quartier pour y mettre des classes sociales plus élevées. Ce qui passe régulièrement par la démolition puis le réaménagement d'une zone entraînant une large hausse des loyers. De quoi repousser les classes populaires toujours plus loin du centre-ville. Mais après ça, ça peut aussi venir de politiques municipales ou tout simplement dépendre du marché de l'immobilier et des propriétaires qui aiment bien jouer avec le prix de leurs biens vides, justifiant d'une pseudo-raréfaction des offres. Alors rentrons plus en détail dans ce projet d'Euro-Rennes, un projet de réaménagement urbain du quartier de la gare. Pour cause, à l'origine, l'arrivée du fameux TGV reliant Rennes à Paris en 1h30, bouleversant donc le marché du travail et les échanges commerciaux entre la Bretagne et sa capitale nationale. Euro-Rennes, en fait, c'est la promesse de nouveaux immeubles immenses pour y mettre des bureaux aux petits noms tout mignons comme Samsic ou encore Identity, des hôtels, un peu de logement quand même, et des espaces de coworking et aussi des bureaux, je sais pas si je l'ai déjà dit avant. Tout un programme tablant notamment sur la démolition d'un quartier, le square Louis Armand, et ce, pour le vendre à un promoteur bordelais. Ancien lieu d'habitation longeant le chemin de fer, il est créé en 70 pour accueillir les cheminots et cheminotes au détour de la rue de Saint-Hélier à quelques centaines de mètres de la gare. En juillet 2024, Street Press a publié un article à son sujet. Je vous lis la description qui en est faite. Le quartier est composé d'une vingtaine de maisons disposées les unes à côté des autres. Même si certaines maisons ont bénéficié de quelques réparations, elles restent à la limite de l'insalubrité, certaines familles vivant sans gaz et électricité, blanches et quelque peu écaillées de plein pied, toits en ardoise et dotées d'un jardin, certaines d'entre elles sont à l'abandon depuis plusieurs années. Et donc, puisqu'inhabitées en 2021, des militants et militantes pour le logement pour tous ont soutenu l'initiative d'y installer des familles exilées ayant besoin d'un toit. La plupart sont des familles avec des enfants et qui ont donc du mal à être régularisées et donc à obtenir un bail stable. Street Press détaille. Au fil du temps, les travailleurs et travailleuses sont partis et ces 6 dernières années, les maisons se sont vidées sans que son gestionnaire ICF Habitat 9 et 10, filiale de la SNCF, ne souhaite reloger personne à l'intérieur. L'objectif, préparer la destruction prévue en 2027 pour laisser place à des logements neufs dans le cadre du projet Euro-Rennes. Aujourd'hui, de rares familles ont réussi à obtenir le droit, octroyé par la mairie, de rester dans leur maison. D'autres maisons n'ont pas eu cet aval, comme le raconte un militant au journal indépendant au sujet de la politique d'ICF Habitat et de la métropole. Pendant un mois, ils ont engagé des vigiles pour protéger une maison inoccupée, une façon d'empêcher de nouveaux squats de s'installer. Dès 2017, des habitations quittées par les travailleurs se sont retrouvées murées. Christophe, un des locataires, insiste auprès du média. « Nous, tout ce que l'on demande, c'est de rester jusqu'au début des travaux en 2027. » Vous l'avez compris, l'Euro-Rennes, né au quartier d'affaires, se fera coûte que coûte. Et ce que dénoncent les militants et militantes d'écran total, c'est que ce projet s'étend jusqu'à la dalle du Colombier, non loin de la gare. Quelques jours après les événements du 8 mars, le collectif expliquait dans un communiqué. Euro-Rennes s'inscrit aussi dans une longue réflexion de la mairie pour transformer cette place qu'elle ne supporte plus. Son architecture et le centre commercial des Trois Soleils lui semblent trop désuets. Et surtout, elle aimerait bien vider cette place des personnes qui y zonent. À la fin de ce communiqué, Écran Total détaille que selon LE, nous devrions faire du 1988, dans un premier temps, je cite, le boycotter tant que le Jarl. Merci. Tant que le Jarl et sa clique de vigiles tiendront les lieux et y propageront leurs idées réactionnaires. Mais Yel rappelle cependant, je cite, toujours que Yel sont contre une fermeture administrative de l'établissement, qui reste un des derniers endroits où faire la fête et écouter de la musique toute la nuit dans le centre-ville de Rennes. D'autant plus que le projet Euro-Rennes prévoit l'expropriation de l'établissement d'ici fin 2027. Une fermeture anticipée ne ferait qu'accélérer ce processus de gentrification. Fermez les guillemets. Bref, ce dossier Euro-Rennes est un cas pratique de gentrification que l'on voit se dérouler immeuble après immeuble sous nos yeux. Alors ce projet, on n'en a pas fini d'entendre parler.
Eh bien, merci beaucoup, Cyriane, pour toutes ces précisions. On jette un petit coup d'œil sur notre répondeur. Un petit coup d'oreille.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Vide. Mais il ne tient qu'à vous de le remplir. Laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On accepte tout, sauf les blagues carambar. Merci beaucoup. Et avant qu'on se quitte, juste un petit point sur les jeux concours, parce qu'il y en a plein en ce moment. Déjà, pour 3 concerts de Mythos. Mythos, ça commence vendredi. Donc, je commence par Flavia Coelho et Fada Freddy. Ça, c'est le dimanche 30 mars à 21h au Cabaret Botanique. Le mot de passe pour gagner, pour jouer et pour gagner, c'est Brésil. C'est les origines de Flavia Coelho qui m'ont inspirée. Et oui. Ensuite, nous avons Théa le dimanche 30 mars. Ça, c'est juste avant à 18h, toujours au Cabaret Botanique. Le mot de passe...
Comète.
Oui. Bravo, Emma. D'après quoi ?
Son album.
Ouais, son dernier EP. Exactement. Et puis, on a aussi quelques places à vous faire gagner pour Synapson, Julia Granel, The Avener. Ça, c'est un peu plus tard, le lundi 7 avril à 19h30 au Liberté.
Alexandre et Paul.
Exactement.
Oh là là !
Des noms des membres de Synapson. Et puis, toujours aussi en cours, le concours pour le spectacle Par d'autres voix d'Ambre Senatore. Ça, c'est le jeudi 3 avril au Triangle. Là encore, besoin d'un mot de passe.
Fire.
Feu.
Feu.
Feu. Go. C'est ça. Pour jouer et gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Timothée pour la technique et à demain.
Si la radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du tour.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.